Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer la matinée ensemble à voir un peu ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui et au-delà de ça, puisque nous aurons une entrevue sans filtre avec le millionnaire Luc Poirier qui va nous rendre visite vers 11h30. Mais on va commencer avec ce qui se passe à la commission Laurent. Vous savez que Régine Laurent s'intéresse à tout ce qui touche à la DPJ, mais surtout aux enfants du Québec. Et ce matin, plus largement, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de bien prendre soin de nos enfants? Et c'est pas parce qu'on sait pas quoi faire. Il y a 28 ans, aujourd'hui, à peu près, là, en tout cas, au début décembre, il y a 28 ans, il était fort occupé, mon invité Camille Bouchard, parce qu'il sortait, il s'apprêtait à sortir un rapport qui allait faire école. On aurait aimé qu'il fasse un peu plus, d'ailleurs, mais qui a fait beaucoup parler depuis. Ce rapport-là, le rapport Bouchard, est une référence. Ça s'intitulait « Un Québec fou de ses enfants ». Et ce que ça faisait, c'était la liste de tout ce qu'il fallait faire pour réduire de beaucoup la maltraitance, les situations de négligence, d'abus, de marginalisation dont étaient victimes les enfants du Québec à cette époque. Et près de 30 ans plus tard, je suis sûre que ce matin, il va me dire qu'il a l'impression de se répéter. Camille Bouchard, merci d'être là.
Je vous en prie. Merci de me recevoir. C'est très important.
Je tenais à vous avoir ce matin, Camille, parce que hier, vous êtes passé devant la commission Laurent, la commission Régine Laurent, qui a eu le mandat de la part du premier ministre François Legault de s'occuper de ça, de nos enfants. Parce que le François Legault, je me rapporte à ce qu'il a dit il n'y a pas si longtemps. Il a dit « Je suis en beau maudit de voir bien sûr, comment on traite nos enfants. » Puis il parlait bien sûr de cette histoire de cette petite fille qui est morte à Granby après avoir été maltraitée par sa belle-mère et son père. Mm-hmm. Et François Legault a dit « Là, il faut que ça arrête. On va faire une commission pour faire la lumière là-dessus. » Mais vous les avez depuis 30 ans, les réponses, Camille?
Pas toutes.
Mais beaucoup.
Oui, mais regardez, on évolue aussi avec ce qu'on voit puis ce qu'on observe. Moi, je souhaitais qu'on puisse réduire d'au moins de moitié, alors qu'on était en 91, la maltraitance envers les enfants. Et la prescription, c'était réduisons d'abord la pauvreté, parce que la pauvreté matérielle, qui est souvent accompagnée de l'isolement et d'autres problèmes, est un prédicteur. C'est comme un virage. La pauvreté là, dans une courbe, mais qui penche du mauvais côté. C'est pas tout le monde qui se casse la gueule, mais la probabilité que tu prennes le champ là, est plus forte. Mmh. C'est donc, c'est pas une condamnation, c'est une observation. Et on disait à ce moment-là, si on pouvait essayer d'améliorer la qualité de vie des familles et les plus vulnérables, notamment à partir de cette notion-là qu'il faut réduire la pauvreté, on arrivera sans doute à quelque chose. On a réduit la pauvreté. Et il ne s'est rien passé de tel dans les statistiques de la protection de la jeunesse, dans la maltraitance. Le taux de maltraitance n'a cessé d'augmenter depuis les 25 dernières années. Moi, je l'observe quasi quotidiennement, là, parce qu'il y en a que c'est les statistiques du hockey, moi, c'est les statistiques de la maltraitance. Mais je suis personnellement hanté par ça, parce qu'on ne peut pas à la fois, Isabelle, revendiquer l'étiquette d'une communauté bienveillante envers les enfants et ne pas se soucier de ce drame-là de la maltraitance envers les enfants. Alors, à titre d'exemple, entre 2002 et maintenant, on est passé de 60 000 signalements par année à 105 000 par année. Une augmentation de 75 %. Chaque jour, là, c'est l'équivalent, puis je l'ai déjà dit plusieurs fois, puis je le répète parce que l'image, on la voit très bien. Là. C'est 5 autobus scolaires jaunes, gros autobus scolaires jaunes, remplis d'enfants qu'on signale là, par jour. Et la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, qui est au bout de la course, là, ça c'est une loi d'exception apparemment, là, doit répondre à chacun de ces appels-là. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent évaluer si les faits sont assez solides pour poursuivre ultérieurement une autre étape dans l'évaluation.
Et c'est là, entre autres, où on apprenait encore dernièrement, puis c'est la vérificatrice générale qui a sonné l'alarme la semaine dernière en disant qu'elle était très préoccupée de voir que dans ces 5 autobus par jour, il y a beaucoup d'enfants qui sont renvoyés chez eux. Parce que c'est très long avant, ça peut prendre, on parle d'en Estrie, 226 jours avant qu'un signalement soit traité puis qu'un enfant soit pris en charge. Ouais. Puis souvent, parmi tous ces dizaines de milliers d'enfants qui sont signalés par année au Québec, ça reste finalement un petit nombre dont le cas est vraiment traité.
Pas vraiment, c'est-à-dire que tous les dossiers sont évalués. Il y en a à peu près 40 % qui sont retenus.
Voilà, hein? C'est ça.
Donc, 40 % qui sont retenus. Oui, mais parmi ceux qui ne sont pas retenus, il y a des enfants qui ont déjà été pris en charge par la DPJ. C'est les intervenants même de la DPJ qui signalent à nouveau parce qu'il y a un nouveau cas qui se déclare. Il y a une nouvelle situation qui se déclare. Ça arrive. D'autre part, il y en a qui ne sont pas retenus parce que depuis le signalement, dans les jours qui ont suivi ou la semaine qui a suivi, il y a des services qui se sont mis en branle pour prendre soin, s'occuper du problème, s'occuper de la famille, etc. Donc, la DPJ dit « OK, on a réglé le problème en tous les cas, ça m'a tout l'air. » Puis, ils font un suivi. Hein, le dossier demeure quand même actif. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Et ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé, ça, avec les années. Autour de 40, 42 38 % de cas qu'on retient. Parmi les cas retenus, il y a des enfants dont le cas est suffisamment grave pour qu'on dise « la DPJ, désormais, va les prendre en charge. Mm-hmm. On va les confier à des proches. On va les placer en famille d'accueil. » Donc, c'est l'État qui va s'en occuper. Donc, il y a un pourcentage, à peu près la moitié de ces enfants-là, dont la sécurité de développement est compromis, qui sont pris en charge par le DPJ.
Mais Camille Bouchard...
Mais vous savez que le DPJ est assiégé. Là, veut dire 105 000 signalements par année. 300 par jour, dont il faut faire, pour lesquels il faut faire une enquête sérieuse.
Mais là, on comprend que ça leur sort par les oreilles.
Ben, ça n'a pas de bon sens. Et le ministre a investi dernièrement 48
Lionel
millions.
Lionel Carman,
oui.
Ministre de la Santé.
Oui, il avait investi correctement, oui, délégué aux services sociaux. Il a investi très correctement 48 millions pour réduire les listes d'attente. Mais moi, depuis 25 ans, là, ça fait au moins 3-4 ministres que je vais faire ça.
Quelques-uns.
Mais oui, tu sais, qu'il rajoute des millions pour réduire les listes d'attente. Et puis, dans 5 ans, elle sera rendue à un point intolérable, encore une fois, où on devrait intervenir.
OK, fait que ça veut dire qu'on ne se prend pas de la bonne façon.
Non, on ne se prend pas de la bonne façon. Quand on a éliminé un certain pourcentage, on a diminué d'un certain pourcentage de pauvreté.
Oui, vous avez dit ça tout à l'heure, je l'ai noté, je voulais qu'on y revienne parce que je ne suis pas sûre. Je fais beaucoup de bénévolat avec des gens vraiment très démunis. Ouais. Puis moi, je ne la vois pas, la réduction de la pauvreté. Non. Quand vous dites qu'on a réduit la pauvreté, vous êtes sûr de ça en termes statistiques?
On a réduit le pourcentage de familles monoparentales et biparentales qui sont sous le seuil de la pauvreté, mais ça ne veut pas dire qu'on les a sortis de la précarité. Tu sais, quand on est sorti de la pauvreté, ça veut dire qu'on a le nez qui nous dépense un petit peu le niveau de l'eau, là, puis c'est à peu près tout. Il ne faut pas respirer trop fort parce qu'on va s'étouffer. Alors, il y a donc ça. Il y a plein encore de familles qui sont dans un statut de vulnérabilité puis de précarité, surtout dans les régions ressources où l'économie est très yo-yo. Tu sais, vous avez soudainement un emploi qui vous rapporte 90 000 $ par année et... Un an après, vous avez acheté votre maison, etc. Un an après, on vous congédie parce que la mine vient de fermer pour un temps indéterminé, etc. Il y a toutes sortes de trucs comme ça qui se produisent et qui font en sorte que le stress s'installe dans les familles. Il y a des dérapages, la violence conjugale, l'alcoolisme s'installe, la dépression. Il y a toutes sortes de situations.
La maladie. Enfin, bref, il y a plein de raisons qui font que...
Oui, des enfants qui sont plus...
Mais j'en viens à cette histoire de la petite fille de Granby qui est morte 7 ans, mourir comme à l'époque... Comme Aurore, l'enfant martyr, ça se peut juste pas, Camille Bouchard, échappe des enfants au Québec. Puis là, on l'a su pour ces petites filles-là, puis on se dit, mais voyons. Puis elle a été prise en charge par la DPJ en plus. Ouais. C'est ça l'horreur. Si on avait pu dire, au moins la DPJ l'a ignorée, mais là, la DPJ était supposée s'en occuper et a failli à ça.
Il y a des juges qui ont décidé que l'enfant pouvait retourner dans sa famille. La loi prescrit aux juges que chacun de ses jugements doit avoir tendance à maintenir les liens familiaux.
Ouais.
Alors, c'est une loi qu'on doit revoir un peu. Il faut se décider. Est-ce qu'on a une loi de la protection des enfants et des jeunes ou une loi de la protection des liens familiaux? C'est très, très, très différent comme approche. Dans la loi actuelle, l'article 3 dit on doit...
privilégier la famille.
Non, l'article 3, c'est on doit protéger les enfants.
Ouais.
Et l'article 4, on doit privilégier... les liens avec la famille.
Ouais.
Et moi, je dis, on impose une espèce de double message aux juges là, qui doivent statuer à chaque cas ce qu'ils doivent faire à ce propos-là. Il y a un autre article dans la loi, l'article 51, je pense, où on dit qu'un enfant ne peut pas être en mode d'accueil temporaire plus que 12 mois s'il a moins de 2 ans, 18 mois, etc., et qui impose aux juges l'obligation de proposer, d'ordonner un projet de vie pour l'enfant. C'est-à-dire... un statut qui fait en sorte que l'enfant a un projet continu dans sa vie. Il est en adoption, il est en... etc. Et cet article-là dit que le juge ne peut pas empêcher que le lien parental soit stoppé. Autrement dit, il ne peut pas prononcer une déchéance parentale à moins que tous les services ait été offert à la famille et que ça n'ait rien donné. Autrement dit, les parents sont déjà protégés dans cette loi par un article qui est très spécifique qui dit on ne peut pas les sortir de leur rôle parental et empêcher qu'ils ne soient les parents de cet enfant-là, à moins que des services... il faut que tous les services possibles auraient été proposés. Alors, ils sont déjà protégés, les parents. On n'a pas besoin de dire au début de la loi que la loi devrait avoir tendance à maintenir les liens familiaux. Je pense que c'est une orientation qui met le doute partout dans le système.
Mais il faut ramener la priorité à nos enfants.
Oui. Et autrement dit, dans une situation où on a un drame, où ça dérape dans la famille, la première question qu'on doit se poser, c'est quel est celui ou celle qui est la plus vulnérable?
Mais c'est toujours l'enfant.
Mais voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a une loi de protection de l'enfance.
Mais pourquoi qu'on ne la respecte pas d'abord? Ben, ou pourquoi on ne lui donne pas les moyens?
Ben, les moyens qu'on lui donne vont toujours être insuffisants parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont signalés. Alors, là où il faut intervenir vraiment, puis là où il faut renforcer tout ce qu'on a renforcé, c'est ce qu'on appelle les services de première ligne. C'est-à-dire les services sociaux, les services d'éducation, les services d'intervention de proximité auprès des familles qui ont des problèmes, qui présentent
des
problèmes.
Voilà.
Et tu sais, au lieu de les attendre là, au bureau, là, qu'on aille vers elles. Puis il y a des projets, des programmes qui ont été dessinés pour cela, mais les fonds ne sont pas suffisants et les ressources humaines, souvent, ne sont pas suffisantes.
Il y a une question aussi. Puis là, on attend beaucoup du gouvernement, on attend beaucoup du rapport de Régine Laurent, on attend beaucoup de la DPJ. Mais à la base, il y a des parents qui ont décidé d'être parents. Des fois, ils ne l'ont pas décidé, mais je pense que la majorité du monde au Québec ont quand même fait le choix conscient d'avoir des enfants. Ouais. Ils ne sont pas tous réveillés un matin comme ça. Oups, tiens, ça vient de me tomber dessus. Donc, avec ça vient une responsabilité. Il faut que les parents soient responsables de leur rôle parental puis des enfants qui viennent avec. Moi, j'ai l'impression qu'on a comme perdu ça. Il y a plein de situations aujourd'hui où les enfants, dans des familles qui ne sont pas forcément toutes démunies intellectuellement ou financièrement, où les enfants, ce n'est pas la priorité. On va en revenir après la pause là-dessus, parce que je veux vous entendre là-dessus, mais j'aimerais entendre aussi nos auditeurs, auditrices, parce que je vous pose la question, c'est bien beau d'attendre tout ce qu'on veut du gouvernement, puis de la police, là, c'est un peu ça, on appelle la police quand il y a le feu, les pompiers, là c'est la DPJ dans ce cas-ci, on l'a vu, là, même les intervenants de la DPJ sont plus capables, ils sont déprimés, ils veulent plus aller travailler, ils ont des conditions épouvantables, ils sont débordés, puis à force de se faire garrocher des roches, à un moment donné, tu décroches aussi, t'es un peu tanné. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des parents aussi? Les parents, là.
Oui, bien sûr.
Et alors, comme parents, il faut se regarder. Je vous donne notre numéro de téléphone, 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Puis je vous pose la question. Pourquoi, d'après vous, on n'est pas capable de bien prendre soin de nos enfants? Est-ce qu'on est assez responsable d'eux? À tout de suite, tout le monde. On parle de cette commission Laurent sur la maltraitance des enfants. Puis ce matin, avec le père d'un ouvrage qu'on aurait dû consulter beaucoup plus souvent qu'on l'a fait depuis 28 ans, un ouvrage qui s'intitule « Un Québec fou de ses enfants » dans lequel, Camille Bouchard disait « Il faut absolument être plus responsable de nos enfants. » Vous disiez ça, Camille, vous disiez « Il faut absolument baisser la pauvreté, contrôler la pauvreté, c'est aussi faire en sorte que nos enfants vont être moins maltraités. » Puis vous le dites encore ces jours-ci, dans les familles où il y a de la violence conjugale, la violence familiale, il y a forcément de la maltraitance d'enfants aussi. Ça vient avec. On a avec nous Cynthia. Bonjour Cynthia, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de faire un signalement à la DPJ.
Oui, c'est une personne inconnue, je n'ai pas l'idée, qui a fait un signalement pour mon plus petit de mes garçons à la garderie.
Ah, d'accord, ok.
Ça a été à la garderie, il y a eu la DPJ qui a fait un signal, qui a été signalé. La DPJ s'est déplacée sur place, ils ont fait leur enquête, ça a duré environ un mois et demi. Puis ça a été en cours, puis c'est le rendu à la cour que le juge a dit que ça manquait d'informations, puis ils ont réouvert la garderie. Donc moi, j'étais vraiment outrée de ça, de savoir que mon enfant s'est fait frapper dans le visage, parce que c'est ça qu'on m'avait informé, puis que dans le fond, au bout de la ligne, la personne n'était pas punie.
Ouais, dans ce cas-ci, c'est dans une garderie, c'est pas dans une famille. Mais dans ce cas-ci, vous avez enlevé votre enfant de la garderie, j'imagine?
Oui, la garderie, oui, bien sûr. Ouais.
Merci de votre commentaire. Merci beaucoup. Évidemment, bon, là, nos lignes sont pleines. On va essayer de vous passer le plus rapidement possible. Marie-Claude, vous êtes une intervenante à la DPJ. Vous travaillez à la DPJ, hein?
Tout à fait, depuis 17 ans.
Racontez-moi un peu comment ça se passe pour vous.
Ben, en fait, le quotidien, c'est de travailler avec des familles qui sont démunies. Quand je vous entendais tantôt dire il faut qu'on soit responsable.
Ouais.
Vous savez, la majorité de ces parents-là qui ne priorisent pas leurs enfants ne savent pas qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Et quand on est là à leur dire qu'ils doivent mettre telle chose en place, ça fait pas de sens pour eux. Ce qui fait que effectivement, il faut pas le voir avec les yeux de nous, parents responsables et aimants, qui fait qu'on ne se retrouve pas à la DPJ et que nos enfants ne sont pas pris en main par le gouvernement, c'est parce que on est là, on les aime, on les priorise, on est capable aussi de se mettre de côté, on est capable de faire les sacrifices qu'on doit faire pour un enfant. Ce qui arrive avec souvent les familles les plus démunies, c'est qu'elles ne le savent pas, on leur a pas appris, on n'a pas bien pris soin d'eux quand ils étaient des enfants. Ce qui fait en sorte que c'est un dialogue de sourds. Ils comprennent pas. Ils sont dans l'adversité, ils sont dans le combat. Hein, souvent, ils vont dire, moi, je vais me battre contre la DPJ, mais en fait, pas contre la DPJ que ces parents-là devraient se battre. Ils devraient se battre pour leurs enfants. Ils devraient faire et poser les actions qui doivent être posées pour prendre soin des enfants. Ce qui fait qu'on est dans un tourbillon sans cesse. Hein. J'ai encore, moi, un client qui consomme énormément, quotidiennement, et qui croit qu'il peut s'occuper de son enfant. Et que c'est moi qui le juge, hein, parce que nous, là, on est identifiés personnellement dans nos dossiers. Les parents ne voient pas le gouvernement, la société, là, ils voient l'intervenant qui est là à lui dicter quoi faire, alors que, ben oui, on essaie d'être en relation d'aide. Et M. Camille a raison, là. Il n'y en a pas d'aide. On n'a pas de programme. Les services ne se mettent pas en place. Si vous saviez combien d'intervenants se battent chaque jour pour que les enfants que nous avons dans nos caseloads reçoivent les services hospitaliers, là, je ne parle même pas là, de la base, hospitaliers, des tests audiologiques, orthophoniques, des évaluations en neurologie, parce que ces enfants-là ont mille et une problématiques, des suivis en pédopsychiatrie. Nous, là, on se bat. Moi, ça fait 17 ans que je suis là. Je continue de me battre. Et comme dans le reportage d'hier, on le fait parce que on les aime, ces enfants-là. On les aime, ces parents-là. Même si on est victime de plein de choses, qui fait que je me lève le matin, encore après 17 ans, c'est parce que je pense que je peux faire une différence dans les familles. Par contre, si vous me demandez si je suis épuisée, je suis complètement épuisée. Je suis tannée de me battre. Et des fois, là, on est obligé d'utiliser les tribunaux pour que les enfants aient les services. On est obligé de partout demander à la juge, au juge, de voulez-vous ordonner qu'il y ait un suivi en orthophonie? Voulez-vous ordonner une évaluation en audiologie? Alors que c'est pas notre mandat de faire ça, mais si on n'a pas ça, on n'y arrive pas. Et je peux vous dire que même quand c'est ordonné, les services ne sont pas là. Marie-Vincent déborde, les services en audiologie, en orthophonie débordent. Moi, je suis sur la Rive-Sud. Le CMR, pour pas le nommer, déborde. Ces filles-là, ces hommes-là essaient de donner des services. Nous ne les avons pas. Nos enfants n'ont pas de suivi. Et là, à tout ça, il faut ajouter les parents qui ne comprennent pas, qui vont dire, mais je fais tout. Oui, c'est vrai. Tu fais plein de choses. Mais tu fais les choses que tu connais. Les choses que tu connais pas, tu les appliques pas. Parce que t'as pas confiance.
Marie-Claude, est-ce que vous voyez que des parents, justement, qui sont démunis intellectuellement ou financièrement? C'est surtout ça, la clientèle des parents de la DPJ?
C'est tous les enfants qu'on a abandonnés pendant des années et qui aujourd'hui deviennent parents et ont un, deux, trois, quatre enfants. Et la roue tourne et tourne et tourne. Et on n'y arrive pas. Ce qui fait que, oui, ils sont démunis, ils n'ont pas les connaissances, ils ont été négligés. Souvent, là, on entend dire, mais moi, je fais moins pire. Mais faire moins pire dans la vie, là, c'est pas suffisant. Il faut que ça arrête. Mais pour ça, là, il faut qu'il y ait des services. Oui, des services en première ligne. il faut qu'il y ait des services aussi à la protection de la jeunesse. On n'en a plus. On n'est pas des donneurs de services, mais je pense qu'on doit devenir des donneurs de services parce que ces enfants-là et ces parents-là s'en sortiront pas et la roue va continuer de tourner.
Vous vous dites, et ça là, fait 17 ans que vous faites ça, Marie-Claude, oui. Puis que vous êtes épuisée. Et puis ma collègue Marie-Laurence Delaney avait sorti un reportage en début de semaine où effectivement, elle disait qu'il y avait des intervenants comme vous dans à peu près tous les centres, un peu partout dans toutes les régions du Québec, de la DPJ, là, que vous êtes épuisée. C'est ce que vous nous dites. Ce matin, on apprend qu'il n'y a même pas de bureau, des fois dans des endroits. Le téléphone, c'est à vos frais. De quoi vous auriez besoin? Ça, c'est tout vrai, ça? Vous vivez tout ça?
Oui, et le 5 janvier prochain, il y a eu un affichage de poste. Le 5 janvier prochain, on perd plein de collègues de travail. Moi, seulement que moi, en unité en enfance, où je suis en service milieu, on perd 6 merveilleux intervenants, ce qui fait que les vieux de la veille, on reste. On reste avec des gens qui arrivent, qui ont peu d'expérience, qui n'ont pas de connaissances. Il faut se battre même pour nos conditions de travail. Oui, j'utilise régulièrement mon téléphone cellulaire, j'utilise régulièrement ma voiture parce qu'on n'a pas assez de voitures, parce qu'ils nous ont pas encore fourni de téléphone cellulaire. De plus en plus, ils souhaitent nous faire du télétravail ou ce qu'ils vont appeler, en fait, c'est de la mobilité. Hein. Ils veulent pas qu'on soit tant à la maison, mais dans des endroits publics, sur la route, arrêter dans une bibliothèque municipale pour rentrer les notes et se promener. Effectivement, que de plus en plus, on perd des bureaux, des endroits où on peut se réunir aussi en équipe pour avoir tout le support, parce que des fois, juste d'arriver puis de dire à une collègue, c'est quoi, aujourd'hui c'est tough, j'ai besoin que tu réfléchisses avec moi, parce que ça, c'est un privilège qu'on a perdu. Mm. On n'a plus le temps de réfléchir, on est dans l'action tout le temps. On essaie d'aider ces parents-là, mais le feu, là, il est pogné, puis les pompiers, ils arrivent pas.
Avez-vous parfois, Marie-Claude, envie de tout abandonner puis de quitter la DPJ?
Oui. Régulièrement. Puis je le fais pas parce que je suis profondément attachée à ces gens-là et je veux continuer de poser des gestes. Et parfois, c'est pas moi, mais c'est ma famille et mes amis qui me disent, mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu fais ça? Quand les fins de semaine, je me lève avec mon café puis mon portable à la maison, quand le soir, je finis tard ou je rentre à la maison pour m'occuper de ma famille et que j'ouvre le portable après que mes enfants soient couchés, je le fais parce que j'aime ces gens-là. Et c'est le message que j'ai envie d'envoyer à tous les parents qui sont suivis pour la DPJ. Par la DPJ, c'est pas vrai qu'on vous veut du mal. On veut vous aider. Puis aidez-nous à vous aider parce que il faut que le message passe. Ça n'a pas de sens. Si vous saviez, je ferme la radio presque tout le temps maintenant parce que je suis plus capable d'entendre parler négativement de mon travail, de ce qu'on est comme personne, comme intervenant. C'est difficile. C'est difficile parce que on est là, on essaie de faire passer le message à la magistrature. Ça fait des années qu'on dit au gouvernement, aidez-nous à les aider, donnez-nous des outils. Mais ça, là, c'est un discours de sourd. Tant si longtemps que les gens ne sauront pas vraiment ce qu'on vit et ce que vivent nos familles, là, c'est même pas, je vous parle pas par rapport à moi, là. Parce que si j'existe pas, ces familles-là, ils n'en ont pas d'aide. Mais moi, là, je grandis à chaque jour en les côtoyant. Même si c'est difficile, même si on se fait insulter, cracher, menacer. J'ai encore des menaces de mort sur moi, là, actuellement.
De mort?
Difficile. Oui. C'est difficile tout le temps. On s'attaque à nous, on nous menace, on va essayer de nous menacer à travers nos familles, à travers nos amis. Ça, là, c'est là et c'est régulier. Mais on est là, puis on les aide, puis on essaie de faire ce qu'on peut. Mais il va falloir que ça change.
Merci beaucoup, Marie-Claude. Votre témoignage est très troublant ce matin et ça fait beaucoup réfléchir. On se rend compte, c'est jamais... Il y a beaucoup de gris, hein, beaucoup de nuances. Mm-hmm. J'aimerais beaucoup que vous gardiez la ligne parce qu'on aimerait avoir vos coordonnées pour faire un suivi avec vous. Merci infiniment de ce témoignage.
C'est très bouleversant.
Très, très, très bouleversant. Ah, mais... On avait prévu d'autres choses à cette heure-là, je vais vous le dire, mais on va continuer là-dessus. Camille Bouchard, vous avez encore quelques minutes à nous donner. Sûrement. Nos lignes sont pleines. Je pense que je veux vraiment entendre les auditeurs et auditrices là-dessus. Je pense qu'on a tous envie de réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre, de ce témoignage. Hein, c'est jamais tout noir, tout blanc dans la vie, puis ça fait du bien de se le rafraîchir, de se le dire. On parle de la DPJ, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de bien prendre soin de nos enfants. Je vous donne la parole après la pause. Je suis en compagnie de Camille Bouchard qui a écrit il y a près de 30 ans, en fait ça va faire 28 ans début décembre, Camille, un rapport qui a marqué un Québec fou de ses enfants. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, vous êtes allé témoigner hier à la commission de Régine Laurent qui s'intéresse justement au sort de nos enfants au Québec, puis vous dites finalement c'est un échec, qu'il faut bien le dire, c'est un échec sur toute la ligne. Là, on vient d'entendre une intervenante de la DPJ, Marie-Claude, qui nous a beaucoup bouleversés. Nos lignes sont pleines. On va donner la parole à Hélène tout de suite parce qu'Hélène, vous, c'est un peu l'envers de la médaille. Hein? Vous êtes une mère dont l'enfant a été signalé, c'est bien ça?
Oui, moi, mon enfant a été signalé par l'école. Moi, dans le fond, on m'obligeait à ce que mon enfant soit médicamenté. Genre Ritalin et tous ces médicaments-là, dans le temps. Moi, c'est ce que je refusais. Parce que moi, je savais que mon enfant avait besoin d'aide, mais il avait besoin de spécialistes, ce qu'il n'avait pas. Il y avait des 3 ans d'attente, des pédopsychiatres, il n'y en avait pas. C'était super compliqué. Donc, la DPJ, on dit « OK, vous refusez ». J'ai dit « Ben oui, parce que moi, je veux qu'il soit évalué ». On donne pas, c'est pas des bonbons, là, ça. Donc, ils ont placé mon enfant en centre d'accueil. Moi, j'ai fait des démarches au bout d'un an.
En centre d'accueil, Hélène, parce que, excusez-moi, juste, vous vouliez pas que votre enfant soit médicamenté, donc on l'a sorti de votre famille puis on l'a placé en centre d'accueil. Il devait y avoir d'autres choses, non? Devait y avoir une autre évaluation.
Non.
Il avait
8 ans. Parce qu'il disait que son développement était compromis. Mm-hmm. Mais moi, j'avais beau leur expliquer, peut-être, mais il faut qu'il soit vu, il a besoin d'être évalué, il a besoin d'être soigné, il a besoin des soins. C'est pas... Et puis, eux autres, ils m'ont dit non, ils m'ont placé mon enfant, c'était pour moi la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. Un an après, j'ai gagné en cours au tribunal de la jeunesse contre la DPJ. Puis, j'ai prouvé que, voilà, moi, j'ai réussi par moi-même, en fin de compte, à Montréal, à avoir un pédopsychiatre. Puis, il a fait une exception, parce que la psychiatrie, c'est par secteur, c'est par région. Donc, moi, dans ma région, il n'y en avait pas. Mais j'avais comme pas le droit d'aller à l'hôpital pour enfants de Montréal.
Mais donc, vous dites, vous étiez en cours et vous avez pu récupérer votre enfant, c'est ce que vous dites, Hélène?
Un an après, oui. Un an après. C'est un an après que j'ai réussi à avoir des services. C'est les services.
Ouais, c'est ça. C'est ce que disait un peu l'intervenante de la DPJ tout à l'heure. Merci beaucoup, Hélène, de votre témoignage. Camille Bouchard, là-dessus.
Ben voilà une belle illustration d'une situation qu'on ne devrait pas voir. C'est-à-dire que quand un parent se soucie du bien-être de son enfant, pense que ce qu'il a comme traitement ou l'approche qu'on lui offre n'est pas...
On a le droit, là.
Oui, mais on devrait être en mesure, en tant que parent, de pouvoir avoir des services autrement qu'à travers la DPJ.
Oui,
alors, donc, moi, mon message là, le plus fort, là, celui que je veux qu'on entende le plus clairement, c'est que ça prend un boss dans la cabane. Ça prend quelqu'un qui est imputable, responsable de ce qui se passe dans sa région quant aux services qu'on doit offrir à tous les parents, particulièrement les parents les plus vulnérables. Cette dame qui vient de nous parler, là, elle est vulnérable parce que son enfant présente des difficultés particulières. Elle devrait pouvoir avoir accès à des services le plus rapidement possible au lieu de passer par la DPJ.
Mais c'est pas la DPJ qui aurait dû être là-dedans.
Non. Ouais. Alors donc, j'ai dit, le directeur de la santé publique régionale a tous les pouvoirs pour intervenir puis mettre autour de la table tout le monde qu'il faut, là, pour arriver à réduire le nombre de ces situations-là qui aboutissent à la DPJ. Il a le pouvoir de faire ça. Il faut que le ministre dise, voici un enjeu prioritaire de santé. Tu sais, c'est pas une infection. C'est pas une épidémie, mais c'est de l'intoxication dans la vie des familles et des enfants.
Mais là, quand ces chiffres-là, c'est une épidémie de maltraitance, ben, par exemple.
Comme ça augmente, ça augmente. Il faut que le directeur de santé publique devienne la référence régionale pour
mais
ça.
Mais Camille, il s'occupe de la grippe, il s'occupe de la maladie de Lyme.
Oui, mais il s'est occupé du suicide, il s'est occupé du tabac, etc. Et on a amélioré le sort de bien du monde comme ça.
Oui.
Mais il y a l'autorité pour le faire. On n'a pas besoin de créer d'autres lois, pas besoin de créer d'autres statuts puis d'autres rôles. Il est là. Ils sont compétents. Ils ont des équipes formidable. Alors voilà.
Gérard, bonjour. Votre opinion.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui,
Gérard.
Moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle. J'ai 67 ans. À l'époque, la DPJ n'existait pas. Mais je vais vous dire franchement, quand il s'agit de violence dans la famille, quand on prend la loi puis on s'oblige à retourner les enfants dans la famille, Je pense qu'on n'aide pas l'enfant du tout. Moi, là, si on m'avait sorti de la famille puis qu'on aurait voulu me revenir chez nous, là, écoutez, je me serais fait tuer. Fait que à ce moment-là, là, je veux dire, on n'aide pas l'enfant. Le parent, là, quand il est violent, ça donne rien, il se reprendra pas en main. Ouais. Et c'est l'enfant qu'il faut aider. Faudrait toujours que ce soit l'enfant qui soit au centre des décisions de la loi.
Tout à fait. Merci, Gérard. Et des témoignages comme le vôtre, il y en a d'enfants qui aujourd'hui sont plus grands, donc ils peuvent le dire. Genre, comment ça se fait qu'on m'a pas sorti de ma famille toxique? Il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui, on en croise de plus en plus, puisqu'on parle de plus en plus de ces problèmes-là.
Moi, je prétends qu'il faut revoir l'article 4 de la loi qui dit que les décisions qui doivent être rendues et doivent tendre à protéger les liens familiaux.
Oui, donc vous êtes contre le fait qu'il y a cette obligation de remettre l'enfant dans sa famille.
Ça ne devrait pas être clairement la priorité. C'est une loi de protection de l'enfant, ce n'est pas une loi de la protection des liens familiaux.
Oui, mais il y a des pédiatres et des pédopsychologues qui vont vous dire « Oui, mais c'est bon pour l'enfant. Un enfant va c'est toujours mieux pour l'enfant d'être avec ses parents qu'avec des étrangers. »
Oui, mais si on est dans un milieu toxique, c'est pas mieux.
Exact.
Alors donc, mais la loi, là, présentement, met sur un pied d'égalité la protection des liens familiaux puis la protection de l'enfant, puis il faut clarifier ça, absolument.
Oui. Bon, évidemment, on ramène toujours tout à cette petite fille de Granby parce que l'histoire nous choque quand on sait qu'elle a été maltraitée jusqu'à en mourir. Ouais. Un cas comme celui-là, qu'est-ce qu'on va apprendre qu'on ne sait pas déjà à part le fait qu'on a raté complètement sur toute la vie.
Moi, je vous dis franchement, là, on a eu un cas comme celui de Granby. Je pense qu'on en aurait eu pas mal. Moi, j'avais peur qu'on en ait plus, dans le fond. Parce que le système est tellement débordé. On a désossé le système de protection de la jeunesse. On a affaibli la première ligne. Vous vous rappelez de l'approche lean en santé? Mmh. Mais dans les services sociaux, là, ça fait du dommage, cette approche-là.
Mais on l'a entendu, Marie-Claude, qui dit « Moi, j'ai même plus de bureau, on me dit « va à la bibliothèque ».
Là, ton temps est compté, le temps d'interaction avec les personnes que tu dois aider est compté, tes déplacements sont comptés, il faut que tu fasses des rapports. Ça fait des dommages, surtout dans les services sociaux, où tu peux pas avoir des services qui livrés à la chaîne. Ça se peut pas, cette histoire-là.
Ouais.
Et donc, il faut reconstruire la première ligne, établir une autorité responsable et imputable dans les régions, enrichir de beaucoup les ressources humaines partout pour qu'on puisse accueillir les parents les plus vulnérables, puis continuer à s'occuper de tout ce qui accable les familles. Il y a des familles qui, dans certaines régions, là, vivent à des kilomètres et des kilomètres du premier service, ils n'ont pas de transport. Bon, là, on va investir 10 milliards dans un projet de troisième lien. Si on investissait ces 10 milliards-là dans le transport public dans les régions, on protégerait beaucoup d'enfants. C'est fou, là, mais c'est comme ça. Parce que...
L'avez-vous dit, ça, à la commission Laurent?
Non, je n'ai pas dit. Ils vont peut-être m'attendre autrement.
Ouais. On va s'arrêter ici à la pause, bien sûr. On y va, mais on revient tout de suite après. Je vous donne l'occasion. On va conclure après ce bloc-ci de pub, mais on revient avec vos commentaires. 514-790-9850 et sans frais, vous pouvez nous joindre. Vous faites le 1-866-790-9850. Si vous avez vécu vous-même la maltraitance, si vous êtes un enfant qui a grandi, un enfant de la DPJ, si vous êtes un parent, si vous êtes un intervenant, on veut vous entendre. À tout de suite. On parle des parents, des enfants, de la DPJ. On se demande comment se fait qu'on n'est pas capable de bien prendre soin des petits Québécois qui vont grandir, qui vont peut-être faire des adultes un peu raboutés, qui vont en faire ce qu'ils peuvent finalement. C'est ça qu'on nous dit, que ces enfants-là, ils grandissent, hein, Camille Bouchard.
Oui, mais en même temps, il ne faut pas voir l'ensemble de l'œuvre. Là, franchement, ça représente un pourcentage trop important là, des enfants qui sont... Dans une zone de risque puis dont le développement puis le bien-être est menacé. Mais la très, très, très grande majorité de nos enfants est bien traitée. Il ne faut pas perdre ça de vue.
Heureusement.
Mais l'échec dont je parle, c'est l'échec d'un système qui n'est pas capable d'aider les enfants et les familles les plus vulnérables à temps.
Oui.
Et dans leur vie et dans l'évolution du problème. Des fois, il y a une première manifestation du problème, il faut intervenir là. Mm-hmm. Et si on n'intervient pas là, on a manqué notre chance, on a manqué l'occasion. ça va se retrouver à la DPJ.
On a Hélène avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Hélène.
Oui, bon, ben moi, j'écoute votre émission depuis tout à l'heure. Puis dans ma famille, j'ai deux nièces qui sont toutes les deux travailleuses sociales. Donc, une, ça fait peut-être entre 8 et 10 ans. La deuxième, c'est ta deuxième année. Mm-hmm. Et je voulais renchérir sur ce que la dame disait tout à l'heure, que ça fait 17 ans,
ouais,
qu'elle est travailleuse sociale. Et c'est effectivement le cas pour mes deux nièces. Elles vivent ça tous les jours. Elles sont confrontées à des menaces régulièrement. Elles sont encore très dévouées à la cause, à la tâche. Puis moi, je vois ça, puis je trouve ça triste parce que je vois qu'il y a des intervenantes qui veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un système qui est très difficile. J'en conclue que souvent le juge va renverser la décision des travailleuses sociales. On a tendance à les blâmer beaucoup. Oui, c'est comme dans n'importe quel métier. Il y en a qui y a des ratés dans le moteur quelquefois, puis on passe à côté. Mais il ne faut pas les blâmer toujours, tout le temps. Il faut prendre le temps d'écouter ces gens-là. Il faut prendre le temps d'écouter le travail qu'elles font, qu'elles et qu'ils font, parce qu'il n'y a pas juste des femmes non plus. Je trouve ça triste. Je veux dire, j'ai écouté la madame qui porte mon prénom, là, Madame Hélène, qui a voulu faire évaluer son enfant avant, puis tout ça. Écoutez, vous allez avoir des gens qui vont vous appeler toute la journée. Puis la commission Laurent, je lève mon chapeau à Madame Régine en passant, Madame Régine Laurent, elle a un gros travail à faire. Il y a des commissaires autour de ça qui ont un énorme travail à faire.
Merci beaucoup, Hélène, de ce témoignage. Merci bien. Mathieu, bonjour. Vous êtes un ex-enfant de la DPJ qui a grandi aujourd'hui. Vous êtes un adulte.
Oui, madame. Mais j'ai passé 14 ans de ma vie dans les centres d'accueil, dans les poids de groupe, famille d'accueil. Puis moi, à l'âge de 14 ans, je me suis mis en gage, j'étais dans un centre d'hébergement pour ados. Puis on m'a ramassé dans un bureau, puis on m'a dit, aujourd'hui, tu vas arrêter l'école, tu vas commencer sur le marché du travail pour prendre de l'expérience. Fait qu'aujourd'hui, j'en ai un peu bavé, parce que la DPJ, c'est pas ce qu'on voit. C'est très malsain comme environnement, c'est tout le temps go, 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 tu vas te pratiquer à devenir adulte quand on est encore des enfants.
Ouais.
Aujourd'hui, je suis chanceux, je gagne très bien ma vie, j'ai rien à cacher, là. Je gagne très bien ma vie, mais j'ai aucune scolarité par rapport à ce fait-là.
Puis vous avez été sorti de votre famille parce que vous étiez dans une famille qui n'était pas une bonne famille pour vous?
Non, c'était vraiment pas Jojo. Il y a eu de la drogue, j'ai été accusé au criminel quand j'étais jeune, et ça brossait pas mal chez nous, mais ça reste pareil que quand j'ai voulu m'en sortir, on m'a obligé d'aller retourner sur le marché du travail. Puis encore aujourd'hui, les jeunes ne sont pas bien là, dans les centres d'accueil. Là. Ouais. C'est pas des places pour les enfants.
Non.
C'est vraiment pas une place. Leur place, c'est dans leur famille. Puis leur famille, ils sont pas capables d'avoir des enfants. Il n'y a rien qui n'a pas d'enfer.
Donc, ouais. À ce moment-là, Mathieu, vous auriez aimé vous être dans une famille d'accueil, à la rigueur?
Non. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en famille d'accueil. J'ai été en foyer de groupe et en centre d'accueil. J'ai tout fait en 14 ans.
Est-ce qu'il y a un lieu où ça a été moins pire qu'ailleurs?
Les familles d'accueil. Ça, ben, ouais, honnêtement, je peux le dire, les familles d'accueil, ça a été vraiment très bénéfique parce que puisque tu n'as pas de modèle parental, une famille d'accueil, c'est stable, c'est la maman, le papa sont là, c'est 24 heures sur 24, c'est eux autres.
Il y a d'autres enfants aussi, ouais.
Un centre d'accueil, là, je vais vous le dire, là, c'est une prison pour jeunes. Là. Je l'ai fait, moi, souvent, là, passer 22 heures sur 24 dans ma chambre. Je n'aimerais pas l'eau ce que j'étais, là, mais encore aujourd'hui, c'est le cas là-bas, là. J'ai parrainé un jeune, il y a une dizaine d'années, un jeune de la DPJ, sans que la DPJ sache, je l'ai parrainé, j'allais le voir au centre d'accueil, c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont enfermés en arrière des portes aimantées. Le monsieur ou la madame qui est là présentement avec vous va pouvoir vous dire, là, c'est des prisons pour jeunes, là, c'est des prisons. C'est pas un centre pour les enfants, là. T'es en arrière de ta porte, la porte est aimantée, il est impossible de sortir de là.
Ah, mon Dieu. Mathieu, merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Je suis désolée que vous ayez eu à vivre tout ça. Merci beaucoup, Mathieu. Camille Bouchard.
C'est un témoignage important. Puis la commission.
On a eu beaucoup de témoignages importants.
La commission les entend.
Est-ce qu'on entend? On entend-tu Marie-Claude? Est-ce qu'on entend Mathieu?
Oui.
Assez?
Oui, il y a des témoignages à huis clos pour des personnes qui voudraient témoigner devant la commission et qui ne voudraient pas rendre leur identité, ne voudraient pas être connues, qu'on les reconnaisse, etc. Des témoignages à huis clos, des témoignages publics aussi de personnes qui, comme le dernier intervenant, ont eu des expériences malheureuses.
Pas, exact, c'est ça.
Et depuis un certain nombre d'années, on tente d'améliorer le sort des enfants qui sont placer dans les centres d'accueil puis de les préparer mieux avec un meilleur système de formation, etc. Mais c'est difficile. Très difficile. C'est un témoignage important.
Merci beaucoup d'avoir vous témoigné à la commission Laurent. On va attendre le rapport, bien sûr, d'ici là. C'est l'année prochaine, fait qu'on va en reparler, c'est sûr. Merci beaucoup, Camille Bouchard.
Je vous en prie.